Bonjour à tous, ici Radio Gemozo, vous écoutez l'Actuali. Aujourd'hui, Sébastien Ferry dans nos studios, c'est un peintre qui, je cite, est à la recherche de l'harmonie, plus particulièrement celle entre la nature et l'artificiel. Dans un style imaginaire et abstrait, Sébastien a créé au rythme de la musique. Mais avant d'en dire plus, Sébastien, comment ça va ?
Ça va très bien en fait. Je chipote, je fais juste une parenthèse, c'est Ferry-Voynier. En fait, c'est important parce que c'est les deux noms de mes parents, mon nom d'artiste. Voilà.
Excuse-moi,
pardon. Il n'y a pas de souci, non, ça va très bien.
Donc au départ, ton art n'était pas vraiment tourné vers la peinture, mais sur le cinéma.
J'ai fait une école de cinéma et j'attendais pour pouvoir créer des courts-métrages, il faut des subventions, etc. Donc c'est un peu long. En attendant, je me suis dit, je vais être artiste et puis je vais vendre plein de tableaux et je vais être riche et je vais pouvoir produire mes films. Donc ça n'a pas été trop le cas tout de suite, mais aujourd'hui c'en est presque là. Ma peinture est devenue très importante. Et alors que c'était une activité artistique secondaire, et là c'est devenu super passionnant.
Oui, t'exprimes le fait d'avoir tout de même besoin de créer autre chose sans vraiment savoir pourquoi.
Oui, c'est ça en fait, c'est... Les prémices, quand on commence comme ça, on s'inspire de nos auteurs préférés. Il y avait Dali, il y avait Picasso, et je copie un petit peu, etc. Et petit à petit, on comprend pourquoi on est attiré par cette création-là. Et c'est venu en s'exerçant au bout de 10 ans, 15 ans, on commence à se dire « Ah bah tiens, j'ai un style ». Et puis ça se cherche petit à petit en faisant plein de tests.
J'ai vu Août 99 et Rêve bleu. Tes premiers pas dans la peinture. Pourquoi avoir finalement choisi la peinture plutôt que le cinéma ?
En fait, c'était un art qui était accessible. Le cinéma, c'est particulier parce que, encore une fois, si on veut bien faire du cinéma, il faut de l'argent. Mmh. Et donc, faut toucher à tous les domaines. Les subventions, c'est difficile. Et c'est sympa que tu parles de ces premières toiles parce que, en fait, je me souviens, par exemple, Rêve bleu, j'avais piqué des cartons dans la rue. Et j'avais volé de la peinture dans un magasin. C'est pas bien ce que je dis, mais voilà. Et j'avais débuté comme ça. Et Rêve bleu, c'est important pour moi parce que le bonhomme bleu, je le fais encore actuellement. C'est devenu très symbolique. J'en parlerai plus tard.
Tu commences à te chercher tout doucement dans le surréalisme, le figuratif, dans des paysages imaginaires qui apparaissent toujours aujourd'hui. Puis tu rencontres Turner.
Exactement, c'est vraiment le déclic en fait. Turner, je l'ai vu au musée à Londres et j'étais fasciné. J'arrivais pas à comprendre comment il arrivait à faire quelque chose d'aussi lumineux. Juste avec de la matière, en fait, de la peinture. Et ça m'avait vraiment fasciné. Et puis, à la base, j'aime aussi les paysages, les levers de soleil, etc. Mais l'effet lumineux, voilà, c'est grâce à Turner. Et je pense que c'est pas venu tout de suite, le fait de créer ces effets-là. Mais progressivement, c'était mon thème. Je souhaitais m'épanouir dans la peinture en faisant des effets de lumière. Mmh. Et donc, après, c'est venu des effets soit artificiels ou soit naturels. Donc, Turner, c'est un de mes peintres classiques fétiches, en fait.
Et un peintre qui a, du coup, joué un beau rôle dans tes œuvres.
Il m'a vraiment beaucoup influencé. Donc, voilà. Et c'est marrant parce que j'ai habité à Chamagne. Et il y a Claude Lelorrain, en fait, qui était un peu... Il faisait le même travail que Turner. Et était de Chamagne.
Génial.
Ils m'ont peut-être inspiré indirectement.
Et pour plonger encore un peu plus dans ton monde, tu nous as concocté une petite playlist avec comme premier titre Waver Weft de Slift. Tu me disais en off que c'était du coup un petit groupe de personnes que tu suivais et que tu essayais un petit peu de faire connaître.
Oui, c'est ça, c'est un jeune groupe. Maintenant, il commence à être bien reconnu de Toulouse, si je ne me trompe pas, français, et ils font du progressif façon... tout ce qui est rock progressif, façon un peu psychédélique, genre Pink Floyd, etc. Un peu nerveux quand même.
On écoute ça tout de suite.
Thank you.
Toujours avec moi, Sébastien, un pâtre qui a commencé à se trouver en s'inspirant entre autres de Turner. Tu t'es tourné vers un style abstrait, particulièrement de paysage avec la peinture à l'huile.
Oui, j'ai démarré par la peinture à l'huile. Je pensais que c'était bien, c'était noble de commencer par l'huile. Et j'ai fait plein d'essais. C'est vrai que c'était au début beaucoup de paysages imaginaires. J'incluais souvent des arbres en fait, c'était symbolique, deux arbres en fait. Et c'est peut-être les prémices de la dualité, peut-être. C'est venu comme ça, petit à petit. L'huile, en fait, la petite anecdote, c'est que je commençais à en avoir marre de l'huile parce que ça m'était, c'était long à sécher. Et j'arrivais pas, enfin, pour faire des fondus, en fait, des dégradés de couleurs, je tapotais avec le pinceau et ça mettait plein de poils sur le... C'était une horreur pour enlever les poils qui étaient sur le tableau.
Je comprends.
Donc voilà. Donc ça m'agaçait un peu. Donc j'ai essayé de me convaincre pour que j'essaie de trouver d'autres techniques.
Et du coup, les techniques suivantes, c'est lesquelles ?
Il n'y a pas d'autres 36 000 façons. Bah, c'est la peinture à l'eau, quoi. Donc c'est l'acrylique. Et au début, j'ai vraiment. Là, c'était l'inverse. Ça séchait trop vite. Donc j'ai testé aussi des matières, en fait, comme par exemple de la poudre dorée. Là, c'était toujours pour avoir les prémices aussi des éclats de lumière, essayer d'avoir un éclat de lumière en référence à Turner. Ça marchait bien, en fait, la poudre dorée.
Comment est-ce que tu as découvert la poudre d'or ?
Alors, c'est vieux, donc je ne sais plus trop, mais c'est quelqu'un qui m'avait donné un gros sac de poudre dorée. Enfin, quand je dis gros sac, c'est 200 grammes, je pense, mais c'est énorme, en fait. Et donc, j'étais tout content, et un coup de hasard.
Comment ça s'utilise ?
Bah, moi, c'était pas compliqué, je soufflais... En fait, je prenais un tout petit peu de poudre sur les doigts et puis je soufflais, ça projetait directement sur la toile. Il fallait avoir au petit bonheur la chance, c'était beaucoup du hasard. Ça, voilà, ça faisait des projections hasardeuses, mais ça donnait une petite tache ensoleillée, quoi, en fait, ça marchait bien.
Est-ce que l'huile, elle a quand même apporté quelque chose à ton art ou est-ce que ça a vraiment juste été une contrainte ?
Une contrainte, en fait. J'ai tout jeté mes tableaux.
Ah ouais ?
Ouais, il y a 10 ans, j'ai tout jeté. J'en avais 500, 600 des tableaux. Et je me suis dit, waouh, c'était trop moche, mais vraiment, c'était moche. Quoi. Donc j'ai tout jeté, je ne voyais pas l'intérêt de garder tout ça. C'était un stock énorme, donc j'ai fait pas mal de déménagements. C'était contraignant, quoi, de garder tout ça, donc j'ai tout jeté.
Okay.
Donc l'huile, j'ai rien contre, hein. Il y a encore plein de personnes qui utilisent l'huile et qui le maîtrisent vraiment, quoi. Et moi, je ne le maîtrisais pas, en fait. Je démarre souvent avec des erreurs, en fait, et ça, c'était la première erreur. Pas la bonne technique, voilà.
Ouais, est-ce qu'il ne faut pas passer par des erreurs
ben
pour
si,
en arriver
ouais, ouais,
à
si,
un
si,
bon...
Moi, je kiffe, je travaille tout le temps comme ça maintenant, et c'est devenu naturel. Ouais. Les prémices, c'est d'y aller au hasard. Je suis persuadé qu'en fin de nuit ou en fin de journée, j'ai terminé mon tableau, je suis persuadé que c'est beau. Le lendemain, je me réveille, je me dis wow, « qu'est-ce que c'est que ça ?» Et du coup, grâce à cette erreur, j'améliore. Et normalement, ça donne quelque chose d'un peu plus sympa. Quoi.
Tu dis, pendant 7-8 ans, je me suis essayée à plusieurs techniques. Donc, on a parlé de la poudre d'or et puis aussi les gros titres sur tes tableaux.
Ouais.
Un petit peu comme on en parlait en off de ce fameux magazine de cinéma qui t'a beaucoup inspiré, que t'as voulu retransmettre dans tes tableaux.
Ben, en fait, je me suis inspirée de tout ce qui est affiche publicitaire et j'aimais bien en fait le design. Je trouvais que c'était un art en fait. Tout ce qui était. Le titrage, même sur un CD, l'art de mettre le titre au milieu d'un CD, etc. Et j'aimais bien inventer des noms imaginaires aussi pour les titres. Et donc, oui, j'ai eu une période où j'ai essayé de faire un paysage minimaliste, sobre, imaginaire. Et l'intérêt, c'était de le compléter avec un titre, une typo harmonieuse et puis un titre assez tarabiscoté, quoi. Ouah, tarabiscoté, quoi. C'est vraiment un mot qui n'existe plus et assez, assez imaginaire, quoi. Donc, voilà.
Toujours de l'imaginaire, hein, ça a une grosse importance dans ton art.
Ouais, j'attache une grande importance aux rêves, donc qui m'inspirent pas mal. Et du coup, l'imaginaire, bah, c'est moi la base, le réel, le quotidien, l'amorosité du quotidien, c'est un peu ennuyeux. Donc l'imaginaire, ça te permet de t'évader puis de te dire que c'est pas si mal que ça la vie, donc c'est très important l'imaginaire.
Ensuite, tu t'es approfondi dans la peinture avec des formations et des rencontres.
Yes, par exemple, j'ai fait des petites formations. Bon, c'est pas technique, mais je me rappelle d'une formation qui s'appelait Vive de son art. Ça te conseillait, en fait, on était une dizaine, et il y a une personne de Paris qui était venue, qui était galériste, et qui nous conseillait par rapport à comment se vendre, mais aussi comment trouver en fait son style, etc. Mmh. Et ça m'a fait sortir de ma caverne en me disant, il faut que je rencontre d'autres artistes qui t'inspirent, qui te donnent des conseils, qui peuvent te guider à trouver ta voie. Et puis pas mal de reportages, j'ai vu plein de choses, des musées, j'ai vu pas mal de reportages sur des peintres très connus, etc. Et ça t'inspire aussi, en fait. Tu dis, ah ouais, il a fait comme ça, etc. Puis l'importance aussi du pourquoi on peint, qu'est-ce qu'il a voulu dire sur certaines œuvres et tout. Et tout ça, ça m'a fait comprendre que peindre, c'était pas juste un décor de mur, et c'était une expression, en fait. Ça a mis du temps.
Comme on disait tout à l'heure aussi, tu t'inspires. Donc du coup, au tout début, tu recopiais peut-être un petit peu aussi la technique d'un artiste que tu aimais. Est-ce que ça aide, en fait, de fortement s'inspirer d'un artiste ?
Vaste question. C'est juste que... je pense que c'est en attendant que tu trouves ta voix, je pense. Okay. J'ai l'impression que tu ne sais pas trop. Donc tu vas vers ceux que tu aimes bien. Et que tu les copies parce que c'est comme un hommage. Et puis tu te rends compte que c'est. Ouais, tu te dis, c'est pas vraiment moi en fait.
Okay,
voilà, je suis content, mais. Et puis tu t'en détaches petit à petit.
Est-ce qu'il faut pas quand même passer par là pour apprendre ?
Si, bah, c'est l'apprentissage en fait. Ça fait partie du processus. Je pense que c'est logique. Mais au début, comme je disais, pour faire mes films, je voulais vendre mes tableaux. Mais le processus, ça a duré 20 ans, donc
ouais.
Et il faut passer par tout ça avant de comprendre qu'il faut trouver sa voie, et la mienne, elle était écrite ainsi, quoi, en fait. J'ai pas pu tout de suite, il y a des gens, des peintres qui tout de suite trouvent leur style, etc. Enfin, c'est pas que je les envie, mais c'est bien, c'est très bien. Mais moi, il a fallu que ce soit un plus long processus, en fait.
Pendant ton apprentissage, t'as quand même eu un attrait... toujours eu un attrait pour les paysages imaginaires, abstraits. Pourquoi ?
C'est une plateforme universelle, en fait. C'est une architecture, je veux dire, universelle. Le paysage, ça m'a toujours fasciné. Puis c'est toujours trouvé un... c'était coupé en deux, le paysage. Tu avais le sol et le ciel. Je pense que maintenant, c'est beaucoup plus clair pour moi. Ça fait partie aussi de la dualité qui est devenue mon dogme artistique. Et, oui, j'aimais bien. Et une autre petite parenthèse, le figuratif, c'était compliqué pour moi, en fait. Je ne pense pas être doué pour créer du figuratif, même si maintenant, j'essaye un peu plus de m'y mettre. Ouais, le paysage, ça m'a toujours fasciné.
Quelle importance est-ce que, du coup, les paysages imaginaires ont dans ton art ?
Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas encore expliquer. Mais j'aime bien, justement, c'est inconscient, en fait. Pourquoi je suis attiré par ça ? Parce que j'habite dans les Vosges.
Est-ce qu'on n'en revient pas aussi au même point de rêve, en fait, de cet attrait aussi du rêve ?
Peut-être. Oui, peut-être. Le côté où, pour moi, c'est une base où tout peut être possible. Et puis, c'est comme... ouais, c'est peut-être chaleureux parce que c'est comme c'est notre maison, quoi, en fait. Ça représente basiquement le chez-soi, en fait, c'est-à-dire la terre, quoi. Mais c'est flou et je suis content, tant mieux de ne pas pouvoir tout expliquer. c'est peut-être, je devrais peut-être y réfléchir à tout ça.
Ouais. Ça veut peut-être aussi dire que l'art, c'est juste une part de soi.
Ouais, c'est vrai que je ne pourrais pas tout expliquer. Et pourquoi aussi je me tourne vers... ces paysages, pourquoi si, et c'est intéressant, mais avec quand même, avec l'âge, on arrive à trouver quelques petites pistes, et je pense qu'à la fin, j'aurai pas toutes les réponses.
Qu'est-ce que toutes ces années d'apprentissage et de recherche de ton propre style t'a-t-il apporté ?
D'éliminer des choses, en fait, d'éliminer pas mal de styles, pas mal de techniques. Et du coup, ça te permet d'essayer des nouvelles techniques. Et c'est là qu'est arrivé l'acrylique, mais avec le pistolet aérographe.
Ouais, on va en parler.
Voilà, ça, c'était le gros déclencheur comme Turner. C'est grâce à cette technique que j'ai pu avoir vraiment un déclic pour ce que je fais actuellement.
Ouais. Je te posais la question tout à l'heure en off. J'allais dire ensuite, tu as exprimé une certaine blessure par une série de grands tableaux. Donc, cette fameuse série de tableaux où tu fais apparaître des dragons.
C'est là que tu vois que ça, tu peux t'exprimer quelque chose qui t'affecte beaucoup. Eh bien, tu peux l'exprimer en peinture. Et ça, c'était le cas, en fait. Pendant un an, j'ai eu une blessure émotionnelle. Et du coup, je l'ai exprimée par le biais de tableaux. C'était une série comme ça, vraiment à part de tout ce que j'ai fait.
Ouais, je suis d'accord.
Ouais, c'est là que tu vois que ça m'a permis aussi de comprendre que c'est une expression et pas encore une fois juste l'art pictural. Pour moi, c'était peut-être pas aussi intense, mais tu peux t'exprimer. Enfin voilà, je l'ai compris aussi comme ça.
Est-ce que l'art était et est-il pour toi encore aujourd'hui thérapeutique?
Thérapeutique, non, pas pour moi, mais en tout cas un moyen d'expression assez fort, en fait. Ben, l'art, en général, moi, c'est indispensable.
Ouais.
On a tous vécu le Covid, hein, et on sait ce que c'est que l'ennui, maintenant. Là, c'est confirmé, on le savait avant, mais... Et je me disais, mais ouais, sans l'art, en fait, qu'est-ce qu'on ferait, quoi? À part se jeter des cailloux sur la tête, j'en sais rien, mais oui, c'est très important pour moi, l'art, pour pas s'ennuyer. Moi, la grosse base... C'est l'ennui aussi, un des autres dogmes. J'ai l'impression qu'on a tout est fait pour pas qu'on s'ennuie, quoi, sur Terre, et l'art en fait partie, quoi.
Qu'est-ce que tu ressens quand tu peins?
De super moments, en fait. Quand je me mets à peindre, c'est pas du tout laborieux. Au contraire, c'est passionnant. Certains tableaux... Enfin, je vais dire ça vulgairement, mais m'emmerde quand même. J'ai du mal des fois à trouver la bonne couleur, mais justement, ça permet d'avoir... Normalement, c'est les meilleurs résultats. Oui, ça, je m'épanouis et j'écoute aussi de la musique pour compléter. C'est des super moments, en fait. C'est juste dommage, voilà, c'est à des moments solitaires, mais c'est intense.
Ouais, c'est vrai que la musique, elle a un rôle assez important, j'ai l'impression, pour toi quand tu peins.
Ça inspire pas mal. Ouais. Du coup, c'est pour ça que j'écoute des musiques inspirantes et qui peuvent. Y a peut-être que moi qui écoute ce genre de musique. Je les partage pas forcément. Ce genre de, je les mettrai pas en soirée, quoi. Je veux dire.
Ouais, ok, d'accord.
C'est vraiment des musiques, créatives, en fait, qui t'aident créativement.
Souvent, je demande aux artistes, est-ce qu'ils ont besoin de se mettre dans une bulle pour commencer à peindre? C'est peut-être une manière aussi, du coup, pour toi de te mettre dans cette bulle-là.
Bah oui, c'est vrai que je me prépare. Il y a des fois, je sens pas que dans la journée, j'ai par exemple 7 heures pour pouvoir peindre. Mais tant que je suis pas prêt à me lancer, ça peut être deux dernières heures. Et je me dis, t'as perdu 5 heures. Je dis, non, mais si t'es pas prêt, te lance pas, quoi, en fait. Faut pas s'obliger. J'ai remarqué ça, comme dans plein de choses. Mais il faut que ça soit un engouement, quoi. Encore une fois, pas une labeur.
Une espèce d'obligation.
Yes.
Est-ce que t'as un rituel avant de te mettre dans une réalisation d'œuvre de peinture?
Je peux dire plein de choses rigolotes là, mais j'aime bien mettre ma petite combinaison. J'ai une combinaison violette fuchsia.
Wow.
J'ai ma petite combinaison, voilà, c'est mon petit rituel. C'est tout basique, c'est aussi basique que ça. Et un petit thé aussi, je commence.
Ouais, allez.
C'est des trucs de papy, quoi. C'est surtout mettre l'impression d'être comme dans un corps de métier, comme la blouse pour l'infirmière ou le pompier. Ben moi, c'est mon petit truc que j'ai fait moi-même, ma petite combinaison. Voilà.
Donc, puis ce fameux déclic avec l'aérographe, la lumière Léon, on l'abordera juste après notre deuxième titre, c'est The Pot de Tool. Who are you to wave your finger? You must have been out your hair. I hold deep in muddy waters, you practically raised the dead. Rob the grave to snow the cradle.
Foot and mouth and head of fast food.
Vous êtes toujours sur le 107, vous écoutez l'actuali, avec moi toujours Sébastien. On parlait de ce fameux déclic, la lumière Léon et l'aérographe. Pourquoi un si grand attrait justement pour la lumière Léon ?
Alors, lumière néon. C'est le néon qui rappelle la lumière artificielle en fait. C'est un petit terme tout simple, néon. C'était pour dire lumière artificielle. Et ça commençait à... Je commençais à me dire, bon, j'aime bien Turner, j'aime bien les levers de soleil et tout, mais moi, je suis quelqu'un qui est vécu dans la modernité et j'adore tout ce qui est film et tout ce qui est technologie. Et du coup, comme par exemple des villes gigantesques comme Hong Kong et tout ça, je trouvais ça magnifique aussi que le décorum artificiel qu'on crée l'humain, ça me fascinait autant que la nature en fait. Voilà, je trouvais ça aussi beau.
Donc l'entrée du pistolet aérographe dans ton art, ça a été un peu comme une évidence pour toi.
Ouais, c'est... Je me suis dit, je continue à l'acrylique. Commencer à maîtriser avec le pinceau, il fallait que je coupe avec de l'eau pour que maîtriser le timing, etc., du séchage. Et puis, je ne sais plus comment c'est venu, quelqu'un qui m'a donné l'envie d'essayer le pistolet aérographe. Et j'ai vu que c'était possible d'en acheter comme ça, et j'ai essayé. Et là, c'était la galère pendant un an. C'est difficile, en fait, comme technique. Faut maîtriser la densité de la peinture que tu mets dans le pistolet pour qu'il se projette. Faut bien les nettoyer, etc. Et j'ai galéré. C'est une technique vraiment... il faut être très méticuleux, etc. Et puis, une fois que tu maîtrises, faut savoir comment créer des volutes, comment tu peins, quoi, en fait. Tous les artistes qui font du street art, c'est un peu le même système en fait. L'aérographe, c'est de la projection de la peinture par le biais d'air comprimé, et le pistolet, ça te permet de gérer plus ou moins si tu fais de la projection plus ou moins intense, quoi, en fait.
Alors oui, ça peut être un petit peu flou pour nos auditeurs. Est-ce que tu peux expliquer concrètement ce que c'est l'aérographe, à quoi ça ressemble?
Alors, il y a un compresseur. Le pistolet, c'est vraiment un petit pistolet où quand tu appuies sur la gâchette, grâce au compresseur qui est relié au pistolet avec un tuyau, tu peux faire ressortir de l'air comprimé en fait. Et du coup, est inclus un petit réservoir de peinture qui s'insère. Une fois que tu appuies sur la gâchette, ça fait ouvrir le réservoir de peinture qui se projette en même temps que l'air. Et voilà, c'est magique parce que ça fait projeter en même temps la peinture. Et tu as une infinie de possibilités en fait. Tu peux en projeter beaucoup ou alors très peu. Et c'est là que tu peux être très très fin dans les détails, ou alors tu peux en projeter beaucoup beaucoup. Ceux qui peignent des voitures utilisent beaucoup les pistolets aérographes qui sont beaucoup plus gros. Moi, il est tout petit en fait. Et ceux qui décorent aussi en pâtisserie, ils s'en servent pas mal aussi. Pour faire des trompe-l'œil et tout ça.
Alors du coup, est-ce que tu as mélangé l'aérographe avec la peinture à l'huile, ou est-ce que tu avais déjà changé ?
Alors non, parce que c'est l'huile et l'eau, donc ça ne se mélange pas. Donc j'ai juste opté pour l'acrylique, voilà, peinture à l'eau, ce qui est simple à nettoyer. Et j'ai réussi d'année en année à maîtriser, ou même quand je fais des erreurs, j'arrive à corriger, etc. Et j'ai commencé à kiffer, parce que cette technique-là, en fait. Et donc je continue toujours quand même à utiliser des pinceaux pour faire des fonds. L'architecture de base en fait de mes paysages imaginaires, je peux utiliser des pinceaux et faire plusieurs couches, mais le pistolet aérographe, ça me sert à faire ces fameux effets de lumière.
D'accord. J'ai l'impression qu'à partir du moment où tu as réussi à gérer cette technique, tu as enfin trouvé l'art que tu voulais faire et montrer, un petit peu comme si ton art avait pris du sens.
Yes. C'est cool cette émission parce qu'on voit ma progression en fait. Donc oui, en effet, à partir de là, je me suis dit, ok, j'ai la technique, tout ça, j'aime bien faire des effets de lumière, mais qu'est-ce que tu veux exprimer ? Et ça réunit donc l'idée que comme j'aime autant la nature que l'artificiel, j'aimais bien faire des effets de lumière artificielle, que j'appelais les néons, et la lumière naturelle, le soleil quoi en fait. Et comme j'aimais bien les deux, est venue l'idée de dualité harmonieuse, c'est-à-dire d'allier les deux sur un même tableau et de symboliser ça par un objet au centre. Et c'était la sphère, puisque c'est très symbolique. La sphère, ça représente la vie, la terre, Et le but, c'était de mettre au centre des deux lumières. Et la démarche artistique est née comme ça, en fait. Je m'exprimais comme ça, en me disant, bon, ben voilà, j'aime bien les deux.
Ouais, au début, avant tout ça, la dualité, elle était plus représentée dans des tableaux un petit peu scindés, coupés en deux.
Yes, oui, la dualité, je l'ai déjà créée aussi, deux tableaux, par exemple, simplement,
d'accord.
Que je collais. Et puis, c'était deux expressions différentes que j'alliais. Etc. Et puis, il y a eu un peu de figuratif aussi. Bon, un exemple, il y avait un ange et un démon. Voilà, le truc classique, je l'ai fait, ça, le truc classique d'un ange et un démon. Et c'était une dualité aussi.
T'as dit, entre la nature et l'artificiel, entre la campagne et la ville, voilà, entre la nature et la technologie. En vrai, pour moi, c'est un peu vraiment des contraires qui sont pas liables. Et toi, tu formes ça comme une dualité harmonieuse. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer le terme même de dualité harmonieuse ?
Ben, c'est pour ça que j'ai opté pour le nom d'artiste Ferry Voynier, parce que c'est deux noms, le nom respectif de mes parents, qui ont des caractères opposés. Et puis, j'avais l'impression que la dualité, c'est un dogme qui me caractérisait, puis qui caractérise. Enfin, c'est ce que je pense de ce qui se passe dans la vie, en fait. On est souvent antagoniste. Il y a le jour, la nuit, le bien, le mal, etc. Au niveau magnétique, il y a le positif, le négatif, etc. Et j'ai l'impression que c'était vraiment la base sur Terre. Et du coup, je l'ai incarné par le biais de mes effets de lumière, c'est-à-dire j'ai juste gardé le côté j'aime autant la nature que la technologie. Et pourquoi antagoniste ? C'est parce que la technologie, pour l'instant, dans l'opinion de populaire, c'est néfaste, en fait. On a l'impression de plus polluer qu'autre chose. Alors que moi, je vois plein de belles choses faites en technologie. Grâce à l'humain, on essaye d'améliorer certaines choses. On montre pas forcément ça dans les médias populaires, mais je prends toujours un exemple où moi j'ai pas mal de soucis de santé et s'il n'y avait pas la technologie, je ne serais plus là par exemple. Donc je trouve la technologie aussi indispensable que la nature. Et la dualité harmonieuse, pourquoi harmonieuse ? C'est parce qu'il faudrait que la technologie dans nos futurs à venir soit l'alliée de la nature. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver une technologie qui ne pollue pas et qui soit l'alliée de la nature et que les deux se complètent. C'est antagoniste. Je pense qu'on est fait que d'antagonisme. On peut très bien faire de belles choses comme des mauvaises. Enfin, le moins possible, évidemment. Mais je veux dire, on n'est pas, toujours sur la même d'un côté. Je pense qu'on est au milieu à chaque fois de deux opposés comme ça.
Est-ce que tu penses qu'on a besoin de cette dualité pour exister ?
Je crois que c'est ancré en nous. Hein, c'est notre nature même. Donc, ouais, peut-être, t'as raison. peut-être qu'il faut ça, ouais. C'est souvent comme ça, des fois, un adolescent, on leur dit de ne pas fumer, c'est la première chose qu'il va faire, etc. On va toujours vers l'opposé aussi, des fois, et ça peut aider à trouver sa voie, j'en sais rien, ouais. Peut-être que c'est un équilibre, je ne sais pas.
On dit aussi souvent que le cerveau humain n'entend pas la négation. Quand je te dis « ne pense pas à un éléphant », tu as forcément pensé
par
à
exemple,
un éléphant,
tu vois. C'est un truc barge, oui. On fait souvent le contraire. Je fais une parenthèse débile, mais je vois des jeunes qui, normalement, la génération, là, elle commence à être éduquée pour dire « il ne faut pas polluer », etc.
Ouais.
Mais bizarrement, je vois de plus en plus de jeunes qui jettent plein de papiers par terre, des emballages. Et je me dis « mais c'est dingue, ce n'est pas possible ». J'ai l'impression que plus on va dire qu'il faut faire attention à l'écologie, moins on le fera. C'est bizarre.
Tout à l'heure, t'expliquais du coup un petit peu la composition de tes tableaux, donc avec la lumière naturelle, la vie et la lumière artificielle. Et du coup, tu dis que t'as représenté la vie avec une sphère et au début un fœtus. Après, tu dis que tu l'as représenté d'une autre manière au fur et à mesure.
Bah oui, parce que le fœtus était trop fort et puis je pense que ça... Je voyais que ça plaisait pas aux gens, en fait. Le design du fœtus était trop, peut-être... trop médical, peut-être.
Ouais, oui.
Moi, j'avais en tête que c'était très symbolique. La vie, bon, bah, c'est le fœtus, quoi, l'enfant. Et finalement, j'ai opté par juste symboliser, nous représenter simplement par une sphère pour représenter la vie et tout. Et en art, la sphère, ça représente tout ça. Donc, même l'harmonie, en fait, la sphère peut représenter l'harmonie. Donc, je me suis dit, la sphère, c'est très bien. Et puis, c'est où j'aime bien les créer en plus. Je trouve que c'est vraiment un design que j'aime bien.
Ce que j'aime bien aussi, c'est que certaines fois, par exemple, la lumière artificielle, c'est juste un trait. En fait, c'est pas gros, c'est pas... ça t'explose au visage. Et en fait, t'arrives quand même à mettre un point sur ces petits détails-là.
En fait, là-bas, c'était de... le néon. Je pouvais faire plein de formes, comme des néons d'enseigne, qu'on trouve sur les devantures de magasins et tout ça. Puis je me suis dit, comme c'est l'humain et qui doit être quand même un tout petit peu plus petit que la nature, en fait, d'un point de vue symbolique, je vais juste faire un trait. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait, parce que j'ai fait des essais, en fait, de faire plusieurs formes, mais ça ne me convenait pas. Puis faire un trait où le reflet de la lumière néon donne l'impression que le trait est un petit peu en... j'ai oublié le terme, mais en tout cas, il est au-dessus, en perspective, enfin, je veux dire, il est...
En symétrie.
En bug, là. J'ai bug sur le terme. Mais oui, il fallait que ça soit plus petit. Par rapport à la symbolique où la nature est plus grande que nous, donc fallait qu'on il y a un petit côté respect aussi de la nature. On ne peut pas être au-dessus, en fait.
Comme on a pu le découvrir du coup, tout au long de cette émission, tu as eu un long chemin avant d'atteindre ce résultat, le résultat que tu voulais. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas eu une envie d'abandonner puisque trop long?
Ben si, oh là 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 là, j'ai... Non, oui, plein de fois, en fait, et puis j'hésitais, comme je fais toujours mes activités de cinéma, je me disais, bon, je vais laisser tomber la peinture, etc. Mais à chaque fois, ça me titillait quand même. C'est ça que j'aime bien, c'est que vraiment l'impression qu'on me disait, non, persévère, t'es fait pour ça, etc. Donc oui, mais c'est vrai que dans le long processus-là, oui, tu t'abandonnes souvent. Après aussi, t'as des vides. Par rapport à vie de couple ou professionnelle, qui fait que tu as des stand-by aussi un petit peu, tu vois. Tu peux pas... je dis 20 ans, mais en fait, s'il fallait compresser tout, ça se trouve, ça fait que 5 ans. Mais avec tout ce qu'on fait à côté, les voyages, la vie de famille, avec les amis, etc. Donc, ouais.
Quel conseil tu donnerais à un peintre débutant qui ne trouve pas son style ?
Démerdez-vous. c'est vraiment le plus simple. C'est ça, il faut se trouver, en fait. Faut pas se poser de questions. Je pense qu'il faut pratiquer. Et après, se pose plein de questions, évidemment. Tu fais un essai et puis tu te dis, bon, voilà, c'est ça, ok, qu'est-ce que j'en fais de tout ça ? Et puis peut-être que tu peux mettre en stand-by tout ça et puis le reprendre, ou alors ça vient tout de suite, etc. Mais je dirais qu'il faut faire, en fait, faut se lancer.
Et avant de terminer cette émission, dernier titre, c'est A Taste of Apocalypse de Monica Rocher.
Tell me.
Nous avons pu aujourd'hui découvrir l'univers de Sébastien, un peintre qui exprime dans ses tableaux la vie face à la dualité de la vie. Tu vas exposer prochainement à Nancy du 24 à fin novembre à la Brasserie Saint-Georges et à Le Local, donc c'est un salon de coiffure que tu m'expliquais tout à l'heure où tu as seulement deux pupitres et puis le reste c'est une exposition. Toujours à Nancy dès le 1er novembre jusqu'à fin juillet.
Yes, c'est ça.
Est-ce que tu te souviens de ta première exposition?
Oui, je crois que c'était l'art dans la rue à Luxeuil, parce que à la base, je suis pas vosgien. Ouh
ah.
Je suis haute-saônois. Et c'était à Luxeuil-les-Bains, l'art dans la rue. Et j'étais vraiment introverti, tout ce qu'il faut pas faire, au fond de mon petit stand. Et pas moyen de communiquer avec les gens et tout, c'était une catastrophe.
Ah mince.
Mais ça plaisait un petit peu, ouais. Enfin,
ah, voilà. Une question typique à tous mes invités artistes, est-ce qu'on n'a pas l'impression de se mettre un petit peu à nu lorsqu'on expose?
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. À cette heure-ci, j'assume. Avant, non, c'était pas le cas, mais j'ai mis du temps aussi avant d'assumer, donc là, ça va.
Souvent, on dit voilà, que c'est quelque chose qui nous appartient, une part de soi, comme on disait tout à l'heure, et c'est pour ça que ça pourrait un petit peu expliquer cette sensation.
Ben, en fait, c'est pas si intimiste que ça, donc c'est peut-être pour ça que je me mets à nu facilement. C'est un petit sujet universel, la dualité harmonieuse, tout ça, les sujets de pollution et tout, et ça se trouve, je suis à l'aise juste à cause de ça. Si c'était vraiment beaucoup plus perso, peut-être que ça serait peut-être plus difficile, mais c'est peut-être pour ça que je suis à l'aise.
Est-ce qu'on n'a pas un sentiment d'accomplissement quand on commence à exposer?
Yes, mais inachevé en fait.
Ah.
On a l'impression de jamais atteindre vraiment le but espéré. Mmh. Depuis 3-4 ans que j'ai mon petit thème... ma petite singularité, ça va. Je suis beaucoup plus à l'aise et j'ai l'impression d'avoir quand même vraiment trouvé mon petit truc à moi et à moi de le faire évoluer encore. J'ai un peu de temps encore, je ne suis pas si vieux que ça, mais donc c'est bien. Ça permettra dans les années à venir de... J'ai trouvé mon truc, il va falloir le faire évoluer le plus possible dans le bon sens.
Qu'est-ce que ça fait de montrer son art au grand public?
Un petit peu au début, tu as des appréhensions, parce que voir si ça marche et tout. Et j'ai fait une dernière expo, je fais une pub à Daniel Viss, l'association Grand Angle. J'ai pu faire une grosse exposition à l'usine, à Uxonnier. Et j'ai mis 60 tableaux, c'est la première fois que je fais ça. C'est des gros tableaux énormes, il y en a qui le font, hein, mais j'avais vraiment une belle couverture et c'est une très belle expo et j'étais trop content. Il y avait pas mal de gens, la plupart des gens sont venus me voir en me félicitant, tout ça. J'ai pu discuter, échanger et c'est aussi bien que de créer en fait. De faire plaisir aussi au public, etc. Et puis ça aussi, c'est quelque chose que j'apprends, que j'ai appris. Oui, c'est aussi intéressant que de créer, en fait. De plaire, c'est sympa aussi.
Puis d'échanger, d'avoir la vie sur
voilà,
ton
c'est
art
ça, oui. Parce que c'est un moyen d'expression, donc c'est toujours le lien avec l'autre. Et si on fait ça, je pense que c'est pas pour nous, c'est aussi pour échanger avec l'autre. Quand je dis autre, c'est avec un A majuscule, c'est ça qui est intéressant en fait. Et si on fait de l'art, je pense que c'est un moyen d'aimer, de communiquer. Ouais, c'est beau.
Alors qu'est-ce que tu voudrais faire ressentir aux personnes qui voient tes œuvres?
Qui trouvent ça beau, je pense que c'est la base,
ouais.
Aussi basique que ça, mais qui est un petit truc secondaire, c'est que j'aimerais bien que par la suite, comme c'est quelque chose d'engagé en fait, pour une fois c'est un engagement optimiste dans le futur, dire qu'on va arriver à ce que la technologie soit non polluante, parce qu'on va l'améliorer et tout ça. Si la personne achète par exemple un tableau, puis qu'après elle invite ses amis en disant ce discours-là, je serais trop fier, parce que c'est un petit peu engagé en fait, c'est un engagement, alors peut-être léger, peut-être que ça prendra de l'ampleur petit à petit, mais... c'est ça que j'espère le plus après. Puis la beauté, bon, bah, c'est subjectif, mais c'est en fonction de chaque personne. Si on pouvait aussi en faire ressortir ce message, c'est pas mal aussi.
Alors, toutes ces expositions que tu fais, est-ce qu'on pourra te retrouver sur place?
Donc jeudi, s'il y a un vernissage à partir de 18h à la Brasserie Saint-Georges, les Vosgiens, il va falloir se déplacer à Nancy. Mais je ferai prochainement, en 2025, des expos qui sont prévues dans les Vosges.
Trop bien.
Voilà, au local, c'est à partir du 1er novembre et je crois que c'est ouvert comme ça au public. On peut y aller quand on veut.
Trop bien. Est-ce que tu as de nouveaux projets pour l'avenir ?
Avec la peinture, mes projets de cinéma avec mon frère, et on écrit depuis 10 ans.
Wow.
Et là, quand ça va exploser, on va faire parler de nous parce qu'on a des bons scénarios de 10 ans quand même.
Ouais,
on
c'est
peut
clair.
Avoir des. Normalement, c'est. Voilà. Donc, on a hâte d'avoir les financements, en fait. C'est. Voilà, toute la partie cinéma, j'en ai pas parlé, mais c'est ça, une grande importance pour moi, en fait. C'est mon cursus de départ. Et. On a déjà réalisé des courts-métrages qu'on peut retrouver sur YouTube, ça aussi, c'est l'autre, voilà, c'est les autres projets.
Et pourquoi pas te réinviter pour parler du cinéma?
Ah yes, bah ouais, avec plaisir, en tout cas c'était très sympa.
Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite?
Beaucoup de plaisir.
Eh bah alors on te souhaite...
Et la santé.
Alors c'est voilà. Parti, du plaisir et de la santé. Est-ce qu'on peut se retrouver sur les réseaux sociaux?
Oui, vous pouvez vous taper Sébastien Ferry-Voynier sur Insta ou sur Facebook. Normalement, je suis répertorié comme ça. Puis j'ai un site www.sébastien-ferry-voynier.com. C'est déjà pas mal.
Un petit mot de la fin.
Merci beaucoup. On défend la radio Gameozo.
Ouais,
j'espère qu'elle
s'il
va
vous
encore
plaît.
Exister. En tout cas, c'est très sympa. Donc, merci de m'avoir permis d'obtenir une sympathique interview. Voilà.
Eh ben, merci à toi, Sébastien, d'avoir partagé avec nous ta passion et ton univers.
Yes, à bientôt.
Et merci, auditrices, auditeurs, d'avoir écouté cette émission. Elle sera rediffusée demain à 18h et podcastée très bientôt sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Entre-temps, prenez bien soin de vous et à bientôt. Oh,